Dans Ville Belgique ce matin, on va s'intéresser à la sécurité, au terrorisme. Vous le savez probablement, et si vous l'ignorez, vous l'apprenez maintenant. Il y a eu, et il y a toujours, des menaces terroristes qui planent et qui pèsent en Europe, notamment en Allemagne, en Autriche et en Italie. En Allemagne, d'ailleurs, la cathédrale de Cologne a dû être fouillée de fond en comble, puisque certains groupes terroristes ont menacé de commettre des attentats pendant cette période de fête. Qu'en est-il en Belgique? Eh bien, Blaise, avec votre invité, on va en avoir plus une photo un petit peu plus précise. Je vous laisse le soin de nous le présenter.
Bonjour, commissaire Dany.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
On vous entend très bien. Vous êtes directeur de la cellule de lutte contre le radicalisme et le terrorisme pour la police intégrée. Alors, comme le disait Didier, on a vu récemment une recrudescence des menaces d'attaques terroristes, qu'elles soient revendiquées par des mouvements islamistes ou non d'ailleurs. Alors, pour commencer, commissaire Dany, quelle est la situation en Belgique actuellement?
D'abord, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Beaucoup de courage dans cette lutte qui anime tout d'abord, très malheureusement, le Proche-Orient, ainsi que notre pays et les pays européens. Alors tout d'abord, laissez-moi juste, si vous voulez bien, dresser un rappel topo donc du risque important d'attentats terroristes qu'il y a dans l'Union européenne, toujours selon la Commission européenne. Donc nous sommes effectivement confrontés, tout comme les autres pays voisins, à un risque important d'attaques terroristes, notamment pendant cette période de fête. Vous venez de le rappeler à l'antenne, effectivement, donc la cathédrale de Cologne qui a été fouillée. Et tout ça selon les ministres des Affaires intérieures. Donc depuis la guerre en fait entre Israël et le groupe terroriste du Hamas, et surtout la polarisation qu'elle a provoquée dans notre société, le risque d'attaque terroriste dans l'Union européenne est effectivement, on ne va pas se cacher, énorme. D'ailleurs, l'avertissement a été lancé par la commissaire européenne des Affaires intérieures, Madame Eva Johansson. Maintenant, en ce qui concerne la Belgique plus précisément, effectivement, on ne se le cache pas, le plus grand danger, c'est un danger lié au loup solitaire. Le scénario le plus plausible, en tout cas pour la Belgique et pour les pays avoisinants, serait un acte de violence djihadiste perpétré par un individu inspiré par le djihad tout seul. Alors, la situation en Belgique reste maintenue à un niveau 3 selon l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, c'est-à-dire un niveau 3, donc un niveau où la situation est grave. L'attaque n'est pas imminente, elle n'est pas non plus à écarter, mais elle est grave. Je vous rappelle d'ailleurs que dans les pays voisins, il y a quelques jours à peine, les services de sécurité allemands ont déjoué un attentat contre les institutions juives en Europe et le Hamas serait appliqué, d'ailleurs pour une des rares fois en dehors de son territoire, qui est la bande de Gaza. 4 personnes ont été arrêtées en Allemagne, 3 au Danemark, 1 aux Pays-Bas, et même la Suisse qui était jusque-là écartée par cette menace, le risque est devenu élevé. Et donc oui, pour terminer sur cette question, effectivement, les marchés de Noël, pour nous, étaient une cible. Et évidemment, les institutions juives, clairement, sont toujours en fait un symbole pouvant être visé par le djihadisme, du loup solitaire, comme on l'appelle dans notre jargon.
Justement, vous l'avez évoqué, on a vu plusieurs tentatives d'attentats ou attentats de membres présumés du Hamas en Europe lors de ce mois de décembre. À quel point ce mouvement terroriste est implanté en Belgique et en Europe?
C'est une excellente question. Il est difficile d'y répondre avec précision, mais nous savons qu'il y a des forces étrangères qui financent tout simplement ces groupes via différentes filiales. Alors sans rentrer dans des détails vraiment... lié au Hamas ou à d'autres groupes terroristes, la Belgique, on peut le dire, est une plaque tournante du djihadisme européen. Alors voilà, je pèse mes mots en le disant, mais ce n'était pas une erreur de le dire, dans la mesure où il y a, pour le citer, la grande mosquée du cinquantenaire, par exemple, construite en plein cœur de Bruxelles, elle est signée de l'influence massive de l'Arabie Saoudite. Ça, on le sait depuis la fin des années 60, c'est de notoriété publique. Islam radical et conservateur vont de pair avec cela. La deuxième chose, cette salafisation de l'islam ne se cantonne pas à Bruxelles, de l'islam radical. On peut citer Vilvoorde, on peut citer Malines, où des groupuscules salafistes extrémistes réussissent à étendre leur influence, sans parler d'Anvers, de Sharia for Belgium, etc. Mais concernant le Hamas, ce n'est pas une salafisation à proprement parler dont il s'agit ici, car il s'agit, comme vous le savez bien, d'une puissance imposante, on peut le dire, importante malheureusement, et tristement célèbre, qui est l'Iran. et qui utilise évidemment la Belgique comme un carrefour. La Belgique présente énormément d'atouts pour une organisation terroriste. Géographiquement, elle est située au centre de l'espace Schengen, où la libre circulation des ressortissants européens est autorisée. Et même si le contrôle frontière a été renforcé, il est très facile depuis la Belgique de rejoindre la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, ou par exemple l'aéroport de Düsseldorf, sans vous donner trop de détails, classifié, propose de nombreux vols très bon marché pour la Turquie, et ce qui permet de gagner la Syrie très aisément. Donc aujourd'hui, il est possible de se radicaliser sur Internet rapidement, aisément, et de prêter allégeance à un groupe terroriste quel qu'il soit, alors qu'à l'époque, il fallait faire des voyages, aller se former, participer à des écoles de combat djihadistes financées entre autres par l'Iran, et même par analogie, malheureusement, par le Hezbollah, chiite, etc. Et aujourd'hui, on parle même des Houthis yéménites qui pourraient financer le Hamas, même dans d'autres pays que des pays du Proche-Orient.
La Belgique était le foyer des attentats de 2015 et 2016. Si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est toujours le cas.
Alors, foyer, c'est très difficile à dire, étant donné que l'Europe est devenue en fait un bastion, effectivement, tout comme l'a été à l'époque le triangle chiite en Amérique du Sud. On n'a rien vu de cela jusqu'à ce qu'on découvre que dans le triangle chiite d'Amérique du Sud, il y avait une présence accrue du Hezbollah terroriste. Maintenant, ici en Belgique, dire que c'est un foyer, ça l'a été, comme vous le dites très bien. Dire que ça l'est encore, c'est un peu, non pas prématuré, mais risqué. Maintenant, dire qu'il y a du terrorisme salafiste, salafisant, et lié à l'islamisme radical, qu'il soit sunnite ou chiite, ou même alaouite, est tout à fait permis, clairement. Ça oui. La menace, en tout cas, est là. Et le niveau 3 de la menace, je le rappelle, sans faire peur à tout le monde, mais effectivement, la menace reste grave. Pas imminente, mais grave.
Évidemment, en conservant votre secret professionnel, si j'ose dire, comment on fait pour lutter contre ce radicalisme ?
C'est une excellente question. Depuis les années 90, en fait, se sont créées des cellules au sein de différents partenaires. Je peux vous les citer si vous le souhaitez. En fait, ces différents partenaires que je vais vous citer maintenant travaillent activement de façon aussi bien préventive que passive à la détection, ne fût-ce que des balbutiements du radicalisme. Je vais vous citer un exemple très concret. Exemple, des élèves d'une école refuseraient de parler aux filles ne portant pas le voile, par exemple. Ou deux, on a eu un cas récemment, des élèves ne souhaitent pas poser sur une photo avec Saint-Nicolas, par exemple. Donc, dès la moindre suspicion, la Sûreté de l'État, le Service général des renseignements et des sécurités, la police fédérale, la police locale, l'Office des étrangers, qui est très présent, du SPF intérieur, l'administration des douanes, le SPF mobilité et transport, le SPF affaires étrangères comme extérieures, participe activement à la dénonciation de la moindre information liée à une quelconque radicalité. Alors dans le conflit qui oppose le groupe terroriste Hamas à Israël, évidemment que la moindre information est cruciale, mais n'oublions pas l'extrémisme de gauche et l'extrémisme de droite qui malheureusement également fleurissent pleinement, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. Et donc oui, la moindre information est importante, nous poussons tous ces acteurs à rédiger des rapports d'information. Il y a un suivi secret, voire très secret, de ce qu'on appelle des entités. Donc nous suivons ces entités, que ce soit dans la rue, dans le travail, que ce soit à l'aéroport avec les partenaires dont je vous parle. Et cette communication se fait maintenant de façon beaucoup plus rapide pour que, et ce sera le mot de la fin pour cette question en ce qui me concerne, la moindre petite information soit relayée, ne fût-ce qu'à l'inspecteur de quartier d'une zone X ou Y de la police locale. Cette information est pertinente pour les services de lutte contre le radicalisme. Voilà.
Vous avez évoqué le mot partenaire. Vous êtes en contact avec des services d'autres pays européens concernés ?
Oui, absolument. Donc, les partenaires que je viens de vous citer ici sont internes à la Belgique, travaillent en étroite collaboration. Voilà, je peux vous citer un exemple me concernant. Voilà, l'ambassade d'Israël, par exemple. Nous travaillons étroitement avec l'ambassade d'Israël pour la moindre suspicion ici de la moindre suspicion, on va dire, d'agissement suspect, comme on l'appelle chez nous. Et en ce qui concerne les pays européens, qu'ils soient voisins ou autres, Europol et Interpol jouent un rôle crucial. D'ailleurs, la plupart des gens pensent que Europol et Interpol sont constitués de de collègues sur le terrain, mais il n'en est rien. C'est le traitement de l'information qui est prépondérant dans cette collaboration, absolument.
Dans votre réponse précédente, vous avez aussi parlé des écoles. On a vu chez nos voisins français deux professeurs qui se sont fait, qui ont été assassinés pour avoir eu certaines idées. Vous avez également des écoles belges qui vous contactent par peur de ce genre d'action?
Alors oui, il y en a, pas beaucoup heureusement, mais il y en a. Les écoles commencent de plus en plus, surtout depuis 2016-2017, à dénoncer quelconque agissement suspect intéressant. D'ailleurs, le cas ici de Saint-Nicolas est un cas récent, nous sommes encore au mois de décembre, où il était étrange de voir, certains élèves issus de la communauté arabo-musulmane, avec tout le respect que j'ai pour eux, refuser de serrer la main ou de prendre une photo avec Saint-Nicolas. Donc, nous nous demandons comment est-ce qu'une personne de 12, 13, 14, 15 ans refuse tout simplement de prendre une photo avec Saint-Nicolas. Et donc, on s'interroge évidemment sur le fond. Donc, quand je reçois cette information, que ce soit moi ou quelconque personne de quelconque cellule de lutte contre le radicalisme en Belgique, mais évidemment qu'un rapport est demandé à l'école, un rapport est demandé à l'inspecteur de quartier. Une enquête est ouverte, même préventive, mais il y a lieu quand même de comprendre pourquoi. Et les parents, les amis et la très mauvaise influence de certaines personnes, évidemment, est tout de suite mise en exergue. Et enfin, pour votre question, concernant le 13 octobre, mais oui, ce n'est que quelques jours après le début du conflit entre l'État hébreu et le mouvement terroriste qu'un enseignant français a été poignardé. Donc il va de soi que le 14, 15 et 16 octobre, nous avons eu énormément de questions d'établissement scolaire, oui, absolument.
Pour finir, vous nous avez parlé d'un enfant de 12-13 ans. Il est très compliqué à 12-13 ans d'avoir ses propres idées. C'est donc l'entourage qui est en cause.
Mais, entre autres, oui, on va dire. Il y a différents secteurs où aller chercher. Et ce sont ces questions dont on se pose aussi dans cette lutte contre le radicalisme qui est à la base très, très, très préventive. C'est au début qu'il faut aller chercher. Alors évidemment que les parents attirent notre attention très rapidement et souvent, je veux dire, il ne faut pas avoir fait Harvard pour comprendre que, ah tiens, bah oui, cet enfant qui a refusé de serrer la main à une fille ou refuse de parler à une fille qui n'est pas voilée, par exemple, eh bien oui, on va aller voir dans son foyer familial. Nos services famille-jeunesse à la police sont très actifs préventivement à ce niveau-là. Et donc comment est-ce qu'on travaille? On travaille sur l'entourage scolaire, clairement, sur le foyer familial, et surtout aux abords des écoles, notamment via des opérations de lutte contre le radicalisme, clairement, oui.
Commissaire Dany, je rappelle que vous êtes directeur de la cellule de lutte contre le radicalisme et le terrorisme pour la police intégrée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
C'est moi qui vous remercie. Excellente journée à tous et aux auditeurs également.
Au revoir.